phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
That boy you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You better let your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well, the ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens, I come back like...
Et bonsoir.
Bonsoir. Alors, il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ben ce soir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez découvrir au fur et à mesure de quoi on va vous parler. On ne l'annonce pas, c'est une mesure en vue de préserver un peu de suspense pendant ce Canu Info. Allez, vas-y.
Et ben on va commencer tout de suite avec de la politique locale. Et je vous en avais un peu parlé la semaine dernière, mais on va continuer. Et ça va, c'est les suites de Bernard Rivalta. Et ben ça y est, maintenant c'est officiel, c'est sûr. Bernard Rivalta, qui est l'ex-président du Citral, ce qui gère le réseau TCL, n'est présent ni sur la liste du PS de Vénissieux, ni sur celle du Parti communiste. Alors, on en parlait la semaine dernière, habituellement présent sur la liste PS, Rivalta a senti aux dernières élections que sa troisième place sur la liste a été obtenue d'un cheveu. Il a donc tenté de s'incruster, parce qu'on vous souvenez, là, les élections de Vénissieux ont été annulées, du coup, hop, il y a re-un scrutin. Et il a donc tenté de s'incruster sur la liste du Parti communiste, mais Michel Picard, actuellement maire de Vénissieux, pour l'instant, a refusé. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, surtout que jusqu'à preuve du contraire, Rivalta n'est ni rom ni voilé, deux obsessions régulières de Michel Picard. Bref, bon, c'est un peu sûrement une sauce politique-politicienne dont on se fout pas mal. Alors, comme Rivalta ne sera plus élu, il ne pourra donc plus être président du Citral, poste qu'il occupait depuis 2001, malgré un détournement de plus de 100 000 euros au Citral, qu'il a été condamné à rembourser. Bon, on n'est pas à l'abri non plus qu'il se fasse nommer par son ami Gérard Collomb, qui lui est le nouveau président du Citral, qui avait promis à Bernard Rivalta de lui garder sa place au chaud, mais bon, il ne pourra pas lui rendre du coup. Mais peut-être qu'il peut le nommer comme directeur général ou un autre poste dans le genre qui ne nécessite pas d'avoir un mandat d'élus locaux. Et on continue un peu comme ça dans ce qui se passe au niveau politique local. Et une autre crapule se barre de Lyon, cette fois-ci de manière beaucoup plus sûre, et c'est Jean-François Carenco, notre cher préfet du Rhône et de la région Rhône-Alpes. Alors attention, nous n'y trompons pas, il s'agit là d'une belle promotion puisqu'il a été nommé préfet de Paris et de l'Île-de-France à sa demande. Bon, ça faisait plusieurs temps qu'il tannait comme ça le pouvoir pour dire ah, filez-moi Paris. Et ben ça y est, ils lui ont filé. Il était en poste depuis 2010 dans la région et a réussi à garder sa place après l'élection de Hollande, car lui aussi était très soutenu par Gérard Collomb. Alors, on lui doit notamment les vagues d'expulsion de squats de Rome, la distribution d'OQTF de masse dans les camps et les squats, une politique conjointement menée avec Colomb extrêmement répressive à l'égard des prostituées, ainsi que sa gestion policière des manifestations, et notamment les dernières en hommage à Rémi Fraisse et contre les violences policières, ainsi que la manifestation du 29 novembre contre le Front National et le racisme d'État. Alors, il sera remplacé par Michel Delpuech. Attention, ne vous fondez pas avec Michel Delpuech, chanteur star des années 70-80. Parce que là, on aurait pu bien se marrer, mais non, non. Ça risque d'être un peu moins drôle. Michel Delpuech est actuellement préfet d'Aquitaine et de Gironde. Donc, poste qu'il va quitter pour venir chez nous, là. Alors, on sait pas grand chose de lui, à part qu'il n'a même pas de Wikipédia, quand même. Ça craint. Qu'il sort de l'ENA dans la même promotion que Hollande et qu'il était directeur de cabinet de Michèle Alliot-Marie quand elle était ministre de l'Intérieur entre 2007 et 2009. Tiens, en plein pendant l'affaire Tarnac. Voilà, en gros, tout ce qu'on sait de lui pour l'instant. Mais bon, a priori, il ne risque pas d'y avoir un gros changement. On risque d'être un peu dans la continuité de Karenko.
Eh bien, on va rester dans la politique locale, mais il ne s'agit pas du local de Paris, il s'agit de la politique locale des Alsaciens. Encore une fois, on va aussi rester dans les petites histoires des gens de droite, là. Pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'UMP a investi pour les élections départementales, donc qui auront lieu les 22 et 29 mars prochains, a investi sur une de ses listes quelqu'un qui est déjà maire d'une commune du Haut-Rhin, et qui a été condamné en 2006 pour avoir incendié des caravanes qui se trouvaient stationnées illégalement, bien sûr, sur sa commune. Donc ce gars qui s'appelle Michel Habig, qui a 68 ans, est vice-président du Conseil Général du Haut-Rhin et maire d'Essinsheim, au nord de Mulhouse, et il a donc été investi par l'UMP dans le canton d'Essinsheim, Neuf-Brisach. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'a indiqué la fédération de l'UMP à l'AFP. Ce Michel Habig, pardon, a été condamné, c'était en mai 2006, à Strasbourg, à quand même 6 mois de prison avec sursis. Hein,
pas mal.
Pour avoir incendié en janvier de la même année 14 caravanes de nomades installées illégalement sur un terrain municipal. Le secrétaire de l'UMP 68, Eric Stronham, a justifié l'investiture de Michel Habig du fait que sa condamnation, ouvrez les guillemets, n'était pas lié à des faits qui constitueraient une atteinte à l'honneur à sa fonction de maire. Ben il a fait que cramer des caravanes de gitans. En quoi est-ce que ça serait déshonorant?
Oui, c'est ça. Ça, à la limite, pour eux,
surtout pour un maire. Il a poursuivi, il a été condamné, mais il n'a pas été déclaré inéligible et il a été régulièrement réélu depuis. Donc c'est bien que de toute façon, les gens l'aiment bien, les Alsaciens, on sait, sont largement aussi faves que la moyenne des Français. Pas de souci. 9 ans après les faits pour lesquels l'élu a été condamné, Eric Stroman a reconnu que Michel Habig avait commis, rouvrez les guillemets, un dérapage lors de l'exercice de sa fonction publique. Qui, et alors ouvrez encore les guillemets, vous allez voir qui c'est. Je veux dire, c'est ces gens-là, ils sont eux-mêmes élus et tout ça. Ils font les lois et ils les appliquent de la manière suivante. Donc, il a commis donc un dérapage qui, donc on rouvre les guillemets et c'est donc le. Attendez, on avait dit que c'était qui lui? On avait dit que c'était le secrétaire de l'UMP 68 qui dit donc que ce dérapage peut arriver à n'importe quel élu exerçant ce type de fonction. Par hasard, il est tombé sur une boîte d'allumettes. Puis bon, tout élu qu'il était, bah, il a fait ce qu'aurait fait n'importe qui. Hein, il a cramé le gitan, quoi. Alors en vrai, il a même pas cramé lui-même, il a donné l'ordre en personne quand même à ses employés municipaux de mettre le feu à un campement. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait personne dans le campement et il faisait ça pour supprimer ce qu'il considérait comme un véritable bidonville. Donc en quelque sorte, il s'occupait de la gestion des ordures ménagères ou quelque chose comme ça, quoi. Il reclassait les déchets. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Le maire UMP avait reçu de nombreux soutiens, notamment du côté des élus locaux du FN. Oui, bon, c'est pas si étonnant que ça. Le MRAP, par contre, et des associations de défense des Tziganes d'une part et des Roms d'autre part, s'étaient portés partie civile au procès. En tout cas, voilà, ce gars-là va vraisemblablement être réélu parce qu'on voit pas pourquoi il le serait pas.
faire un petit tour du côté de Calais et là c'est le nouveau centre d'accueil de jour Jules Ferry qui se situe dans la périphérie de Calais qui va ouvrir début avril. Alors ce nouveau centre n'a pas pour vocation d'héberger la nuit, enfin en tout cas des gens puissent y dormir, ni que en tout cas que des migrants ou des migrantes puissent y dormir, mais seulement de fournir des douches, des WC et des repas. Alors, sauf que l'ouverture de ce centre va s'accompagner de beaucoup d'expulsions de squats et de camps à Calais. Au total, il y a environ plus de 2000 personnes qui sont menacées. Le but, étant de vider Calais de ses migrants. À la limite, des camps seront tolérés aux abords du centre d'accueil. Bref, bien loin de tout et surtout bien loin du centre-ville. Alors, un appel a été lancé par tous les collectifs, on en a déjà pas mal parlé ici, de tous les collectifs de militants, militantes, notamment nos borders et bon, pour les plus connus, mais il y en a vraiment un tas d'autres. Alors, un appel a été lancé pour venir aider à résister aux expulsions qui se préparent. Beaucoup de migrants ou migrantes n'ont pas l'intention de partir de là où ils se sont installés et où ils ont réussi à s'organiser. Pour beaucoup d'entre eux, une expulsion n'implique pas seulement de perdre un abri, mais aussi tout un tas de débrouilles qu'ils ont pu mettre en place pour galérer un peu moins dans leur vie. Donc toute personne qui a donc envie de se rendre à Calais pour filer un coup de main est la bienvenue. Vous pouvez trouver l'appel complet sur... Alors écoutez bien, c'est sur le site internet sans papier ni frontières, le tout au pluriel, .noblogs.org. Bon, si vous tapez dans un moteur de recherche sans papier ni frontières, au pluriel, vous allez trouver le site. Voilà, en gros, ce que les gens vous conseillent par contre de venir en complète autonomie sur votre couchage, ce qui précise que la période risque d'être assez dure, enfin, et assez mouvementée. Du coup, si vous venez... pensez pas que vous allez pouvoir vous faire héberger, ça risque de pas être le cas, donc prévoyez tente, camion, pote qui habite à côté, bref, débrouillez-vous, mais soyez autonome.
Alors maintenant on va partir en Algérie parce que qu'est-ce qui se passe en Algérie ? Eh ben, il se passe des choses dont on sait pas jusqu'où elles peuvent aller. Alors, bon, tout commence par la crise des prix du pétrole. Les prix du pétrole se sont effondrés, ils sont à leur taux le plus bas depuis 6 ans. Il faut savoir que le pétrole, c'est quand même une énorme source de revenus pour le gouvernement algérien. Donc 95% de ses revenus en devise, c'est-à-dire de ce qu'ils vendent à l'extérieur. Bon, bref. Il faut savoir... que ce pognon a servi au gouvernement algérien à se maintenir, en particulier au moment des dernières élections, où il y avait deux arguments pour voter pour Bouteflika, dont à l'époque, personne ne savait trop s'il était mort ou vivant, mais ce qu'on savait, c'est qu'il avait, au cours des dernières années, pas mal redistribué la thune du pétrole. Et bon, d'autre part, l'autre raison massive, c'est que lui, mort ou vivant, en tout cas, comme il allait rien faire, vu son degré d'accident vasculaire cérébral et qu'il était à peu près pas capable de parler, au moins l'Algérie risquait pas de retomber dans une guerre civile comme dans les années 90. Et ça, c'était une grosse motivation. Toujours est-il que donc là, les prix du pétrole se cassent la gueule. Bouteflika, qui entre-temps semble un peu revenu à lui, il semble faire des apparitions, même des fois parler avec des gens, arriver à s'en faire comprendre. Pardon. Bouteflika, du coup, flippe. A assez de tête pour flipper, en tout cas. Et du coup, l'Algérie a décidé, puisque le pétrole ça commence à être la merde, d'exploiter ses ressources de gaz de schiste qui pourraient bien être les quatrièmes mondiales, donc après dans l'ordre les États-Unis, la Chine et l'Argentine, et donc investir massivement dans l'exploitation de cette ressource. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que en Algérie, comme n'importe où ailleurs, les gens n'ont pas plus que ça envie de voir les paysages dévastés, la nappe phréatique complètement niquée, et cette fameuse, on s'en souvient, on en parlait il y a quelques années quand c'était plus l'actualité en France, là, le fameux truc où t'allumes le robinet dans ta cuisine, et là, tu peux y mettre le feu, et ça prend feu, parce que, comme ça se passe dans certains endroits aux États-Unis. Donc les endroits où le gaz de schiste est exploité aux États-Unis. bon, dimanche dernier, une quarantaine de policiers ont été blessés dans des heurts avec des manifestants hostiles à l'exploitation du gaz de schiste. C'était dans la ville de Insala, dans le Sahara algérien, donc dans le sud du pays. Le ministère de l'Intérieur algérien décrit la situation comme ça dans un communiqué. La ville d'Insala a connu des incidents touchant l'ordre public initiés par un groupe de jeunes contestant les opérations d'exploitation du gaz de schiste dans cette région. Et donc ces heurts ont provoqué des blessures à 40 policiers, dont 2 grièvement atteints. Alors un groupe de jeunes, bon, on dit toujours ça parce que les jeunes ils sont impulsifs, c'est ça qui explique qu'ils sont pas contents. Bien sûr, c'est pas des raisons vraisemblables. En l'occurrence, les images montrent que certains de ces jeunes ont les cheveux blancs. Mais qu'à cela ne tienne, c'est des ministres de l'Intérieur. Les protestataires ont quand même profité pour incendier le siège de la Daïra, qui est la sous-préfecture en quelque sorte de la Daïra d'Insala et la résidence du chef de Daïra. Ils ont incendié aussi une partie d'un dortoir des forces de l'ordre et un camion de police. Les forces de l'ordre ont réussi à maîtriser la situation et à instaurer le calme dans la ville, c'est ce qu'indique le communiqué du ministère de l'Intérieur.
C'est drôlement maîtrisé quand même.
C'est ça, ils n'ont pas maîtrisé tout de suite. Mais dès lundi matin, une centaine de personnes a repris possession de la place Somoud, dans la ville de Insala, Somoud qui est un mot qui signifie résistance. Donc cette manifestation de dimanche, elle prend place dans le cadre d'un mouvement qui date quand même de 2 mois. C'est depuis le 1er janvier qu'un campement est installé à Insala. Et du coup, un campement, ça, je sais pas si c'est gros ou petit, mais ça n'empêche pas que assez régulièrement dans la ville d'Insala, un millier de personnes participent aux manifestations. Et voilà, c'est une sorte de petite malgré tout, mais des ZAD à l'algérienne, et qui a l'air quand même de s'étendre. Il faut savoir que c'est pas que à Insala que en fait globalement dans les villes du Sahara algérien et dans les villes du sud, la contestation s'étend à tous des endroits qui sont quand même d'habitude plutôt calmes et plutôt tranquilles, et là les gens ils sont vraiment vraiment pas contents. Il faut savoir qu'il y a eu des manifestations à la capitale mais qui ont été empêchées. L'entreprise Sonatrach a annoncé au début du mois de février que ses forages exploratoires de gaz de schiste par fracturation hydraulique continueraient et qui, en quelque sorte, en substance, qu'ils en avaient rien à foutre de l'hostilité grandissante des populations qui vivent près des gisements. Lundi, à l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition ont exprimé leur mécontentement en brandissant dans l'hémicycle des pancartes qui disaient non au gaz de schiste ou nous sommes tous avec Insala. Je vous ai déjà dit. Le gouvernement. Ah oui, c'est ça. C'est que. Pardon, je reviens un peu en arrière, mais avec cette histoire de chute des prix du pétrole, il faut savoir, et ça joue aussi, que le gouvernement est contraint d'envisager des réformes de son économie, qu'il a d'ores et déjà adopté un premier train de mesures d'austérité, que les recrutements de la fonction publique ont été gelés, qu'un contrôle rigoureux a été imposé au commerce extérieur et que les projets jugés non urgents ont tous été reportés. Pour l'instant, ça joue encore peu sur la vie quotidienne des Algériens, mais si la crise continue, ça pourrait commencer à se voir plus. Voilà, du coup, le pouvoir donne vraiment tout pour éteindre la contestation. Bouteflika, donc dans la mesure où il arrive à nouveau à parler, a envoyé de nombreuses délégations pour essayer de faire de la médiation sur le terrain. Et puis, il a joué sur la fibre religieuse des Algériens en disant, ouvrez les guillemets, le pétrole, le gaz conventionnel et le gaz de schiste, les énergies renouvelables sont des dons de Dieu. Il nous incombe de les faire fructifier et d'en tirer profit pour nous et pour les générations futures. C'est ce qu'il a déclaré le 24 février, au moment même où les forces de l'ordre empêchaient l'opposition de manifester à Alger, à la capitale. Voilà. Et ben après, on ne sait pas du tout. C'est le type de contestation qui peut aussi bien être calmé un peu rapidement, mais qui peut aussi bien mener très, voire très, très loin. Voilà notre générique.
C'est remis au début. on va parler de ce que vous allez faire ce week-end, en tout cas en proposition de ce que vous pouvez faire ce week-end. Il y a un rassemblement dimanche 8 mars contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme à 14h, place du Pont à la Guillotière. Alors je vais vous lire un peu l'appel, mais que j'ai volontairement tronqué pour éviter que ce soit trop long et fastidieux à entendre. Alors, suite aux attentats de janvier contre Charlie Hebdo et contre le magasin Hyper Cacher, nous constatons la multiplication et l'aggravation des actes racistes, islamophobes et antisémites, qui ne sont que la continuation des discours et politiques d'État qui stigmatisent, tuent et discriminent depuis des décennies. On dénombre d'ores et déjà plus d'actes islamophobes depuis les attentats que pour toute l'année 2014. Nous refusons toute récupération politique et l'injonction à l'unité nationale. Nous refusons de nous allier à des forces politiques qui participent à l'oppression en France et se rendent coupables et complices d'impérialisme à travers le monde. Notre unité se trouve dans la solidarité contre les injustices sociales et contre toute forme de racisme. C'est par la solidarité et au travers des luttes communes que nous parviendrons à dépasser les obstacles qui nous séparent les unes des autres et qui ne profitent qu'au pouvoir. Alors voilà, et ben le rassemblement se tiendra donc dimanche 8 mars à 14h, place du Pont à la Guillotière. Alors place du Pont, pour les gens qui savent vraiment pas, c'est la place qui s'appelle officiellement la place Gabriel Péri.
C'est l'endroit où il y a le métro Guillotière.
Tout à fait. Là tu veux un petit peu de musique mais ça marche pas.
Ok, bah, qu'à cela ne tienne, je vais vous lire un petit appel à... Alors bon, ça c'est pour savoir ce que vous allez faire, non pas ce week-end, mais plutôt dans une semaine et... Oh là, mais dans, en fait, carrément plus que ça, ce que vous allez faire dans 15 jours, le jeudi dans 15 jours.
Prenez note,
sortez votre agenda, et donc vous allez aller à l'atelier pour une rencontre en soutien à la création d'un camp antinucléaire à Bure. Je vais vous lire. Jeudi 19 mars à 19h, mais ça je vous redirai à la fin quand vous serez convaincus. Venez nombreux et nombreuses à l'atelier des Canulars pour une présentation en vue d'organiser un camp antinucléaire à Bure pour l'été 2015. Là où l'État et l'industrie nucléaire ont décidé de mettre en place CIGEO, le futur lieu d'enfouissement définitif des déchets radioactifs. Nous venons des contre-sommets, des campements Action Climat, des villages No Border, des luttes à Notre-Dame-des-Landes et autres ZAD, des luttes antinucléaires, etc. Si toutes ces luttes sont singulières, nous sommes nombreux et nombreuses à y porter les mêmes idéaux d'horizontalité et de réflexion pour combattre toutes les formes de domination. Nous trouvons aussi du commun dans nos modes de vie et d'action. Ces combats se croisent toutefois et se renforcent mutuellement. Cet été, retrouvons-nous dans un campement autogéré à Bure, c'est dans la Meuse, là où ils construisent de force un centre international d'enfouissement des déchets radioactifs. Nous voulons discuter de nos stratégies avant d'envisager ensemble des modes d'action collectifs pour ancrer nos résistances à Bure comme ailleurs. Donc, vendredi, un repas, jeudi 19 mars. Un repas est proposé à prix libre en soutien au futur campement. C'est donc jeudi 19 mars à l'atelier des Canulars qui est 91 rue Montesquieu dans le 7e à Lyon. Et on vous le répète, on vous le redira certainement d'ici là.
Eh ben, il est 19h23.
Et c'est l'heure de la fin de ce Canu Info.
Tout à fait. On va donc vous laisser avec un peu plus d'une demi-heure de bande continue avant de retrouver l'émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Ciao.
I've got a love, a love the wrong way, a love that is growing and it's getting less.